Il est 19h. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Il se voulait le président de tous les Français. Jacques Chirac est donc mort à 86 ans, battu par Giscard et Mitterrand avant de l'emporter sur Jospin et Le Pen. 12 ans à l'Élysée, 3 fois maire de Paris, député de Corrèze, 2 fois à Matignon. Nous revenons longuement sur un parcours politique débuté en 1967. Saran, le non à la guerre en Irak, le discours du Vélodrome d'hiver, mais aussi la dissolution, la fracture sociale, les affaires et les revirements européens. Les hommages de Nicolas Hulot, Lionel Jospin et Jean-Pierre Raffarin dans ce journal. Vous entendrez aussi le Chirac des Guignols, bien sûr. Et nous serons au musée du Quai Branly pour terminer, avant une deuxième heure du Téléphone Sonne spécial, Fabien.
Absolument, on s'est beaucoup concentré sur la politique internationale de Jacques Chirac pendant cette première heure. On va ouvrir un petit peu la focale aux autres Chirac. Ils sont multiples, les Chirac qui sont les vôtres, vos souvenirs, vos marqueurs. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Une grande carcasse d'1m92, une grande main qu'on voyait dépasser de sa voiture les soirs de victoire électorale, un très grand appétit aussi, une bonne descente, tête de veau sauce gribiche et bière, un goût immodéré pour la conquête du pouvoir avec ses ratés. Jacques Chirac s'est donc éteint ce matin à 86 ans et ce sont 40 ans d'histoire politique qui s'en vont avec lui. Ce sera la quasi-totalité de ce journal. D'abord quelques repères pour résumer Jacques Chirac, 2 fois président de la République donc, après les défaites de 81 et 88, 18 ans maire de Paris, 2 fois Premier ministre, plusieurs fois ministre et député pendant 12 ans à partir de 67 en Corrèze. Reportage ici à Saran, le fief où se trouve le musée Chirac, signé Nicolas Blanza.
Donc vous avez une première salle là avec une sélection donc de cadeaux.
C'est déjà l'afflux à l'accueil du musée où le téléphone n'arrête pas de sonner. Franck en route sur l'A89 porté par Jacques Chirac à 1000 clignotants sur son trajet entre la Charente et Arles.
Et comme j'ai appris ça sur la route, je me suis dit là c'est le moment où jamais de voir son musée.
Ça valait le coup pour voir notamment l'exposition temporaire voiture de président avec la fameuse Citroën CX Prestige, celle du soir de l'élection présidentielle en 1995.
C'était une figure unique. À tout niveau.
Cette élection, le maire Michel Poincheval en a aussi un souvenir légèrement postérieur.
Quelques semaines plus tard, il est revenu, il devait y avoir une élection. J'avais un souci avec la protection du château.
Le château de Bitti, propriété des Chirac à Saran.
Ici même, dans ce bureau, il me dit, mais il faut me tutoyer, hein. J'ai pas pu.
Ici, tout le monde le savait malade et s'était préparé, mais quand même, relève Pierre, un habitant de la commune.
Toute une série de gens, tout autour de moi, qui sont la même classe, comme on disait dans le temps. Et je pense que ça va leur faire un sacré coup. Tous ces gens-là qui ont connu la gloire du pays, c'est surtout leur jeunesse et leur jeunesse qui disparaît maintenant.
Tranquille bourg de 300 âmes, désormais assaillie par les journalistes et les visiteurs.
Saran, où le Tour de France passera l'an prochain. Merci Nicolas Blanza. Une photo géante de Jacques Chirac est déployée sur la façade de l'hôtel du département à Tulle. Sa vie politique a donc commencé en Corrèze. Sa vie, tout court, s'achève rue de Tournon, au cœur de Paris. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Vous êtes devant l'hôtel particulier où vivait l'ancien président. Emmanuel Macron pourrait venir se recueillir ce soir.
Oui, et ainsi Emmanuel Macron se mettra dans les pas de Jacques Chirac, qui le 8 janvier 96 s'était rendu au 3e étage du 9 avenue Frédéric Leplay à Paris pour se recueillir devant la dépouille de François Mitterrand, entourer sa famille avant de prononcer depuis l'Élysée un hommage très fort qui marqua le début de son quinquennat. Emmanuel Macron ne veut pas non plus rater ce rendez-vous avec les Français. Ce soir, 20h, il saluera cet homme d'État qui n'a finalement jamais côtoyé et partagera l'émotion de tous ceux qui depuis midi viennent ici, à 2 pas du Sénat, sous le ciel gris, se recueillir derrière des barrières métalliques. Catherine habite le quartier.
Ça me fait un choc parce que c'est toute une époque, c'est tout un pan de notre vie politique qui disparaît. Il disait les choses et il ne les faisait pas forcément, mais il a été beau parleur et il nous faisait un peu rêver, on va dire. Bon, moi j'étais pas du tout de son camp, si vous voulez, peu importe, mais le personnage me plaisait parce qu'il y avait ce côté quand même chaleureux. On n'était pas dans la technocratie froide comme maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Lui, il avait un côté paysan qui me plaisait bien.
Témoignage sans filtre qui invite donc Emmanuel Macron à lui rendre un hommage des plus chaleureux. La visite ici du président pourrait finalement intervenir après son allocution. Pour l'instant, les forces de l'ordre sont en place, mais les seuls à avoir franchi la lourde et sombre porte de cet hôtel particulier sont les membres de la famille Pinault, propriétaires des lieux et amis de longue date du clan Chirac.
Merci Maxence Lambrecq en direct de la rue de Tournon à Paris avec Raymond Albouy. Et à l'instant, l'Élysée fait savoir qu'un deuil national sera observé lundi partout en France en hommage à Jacques Chirac et qu'une messe aura lieu également lundi à midi à l'église Saint-Sulpice à Paris, toujours donc d'après l'Élysée. Jacques Chirac disparaît, mais il laisse 4 décennies de vie politique avec des hauts et des bas, forcément. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
On commence par les hauts. Notre maison brûle et on regarde ailleurs, bien sûr, la célèbre phrase, mais aussi le nom à Bush sur l'Irak et le discours du Veldiv.
Oui, évidemment, deux grands discours. D'abord ce Jacques Chirac qui s'oppose aux Américains, qui s'érige contre la politique va-t-en-guerre de George W. Bush en Irak. Nous sommes en 2003, c'est le début de son second mandat et c'est incontestablement l'élément le plus fort, le plus positif dans le bilan de ces 12 années passées à l'Élysée.
Les opérations militaires viennent de commencer en Irak. La France regrette cette action engagée sans l'aval des Nations Unies. Et je souhaite que ces opérations soient les plus rapides et les moins meurtrières possibles et qu'elles ne conduisent pas à une catastrophe humanitaire.
C'est à ce moment-là, en tout cas, qu'il se forge véritablement une stature internationale et qu'il voit grimper sa popularité au sein du monde arabe et bien sûr auprès des Français. Et puis, autre temps très fort dans l'exercice du pouvoir de Jacques Chirac, ce 16 juillet 1995, il vient d'être élu président, il l'est depuis 2 mois seulement, et immédiatement, il reconnaît la collaboration de la France avec l'Allemagne nazie lors de la rafle du vélodrome d'hiver, la rafle du Veldiv.
La France devait de reconnaître sa responsabilité en ces minutes si particulières. Je veux redire avec gravité que l'antisémitisme n'a pas sa place en France. C'est une haine qui plonge ses racines dans les profondeurs du mal et dont nulle résurgence ne peut être tolérée.
Voilà pour ce discours de juillet 95. Karine, Chirac, c'est aussi un sens politique parfois très mal réglé.
Oui, il avait surtout fait toute sa 3e campagne présidentielle, celle qu'il a gagnée en 1995, la première sur la fracture sociale. Et arrivé au pouvoir, on connaît l'histoire, il veut respecter les critères de Maastricht et il impose une politique de rigueur économique. Les plans Juppé passent mal, les grèves sont massives, acculés. Jacques Chirac est obligé d'annoncer la dissolution de l'Assemblée.
J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années.
Et un an auparavant, pourtant, il avait juré qu'avec lui, la dissolution, il n'en serait jamais question.
Merci Karine Bécard et bonsoir Yaël Gauss qui est dans ce studio
bonsoir
depuis
Sébastien.
Le début de ce 18-20 spécial. Yaël, chef du service politique de France Inter. Précision tout de suite sur ce qu'annonce l'Élysée concernant l'hommage qui sera rendu à l'ancien président.
Effectivement, alors l'Élysée fait savoir que le palais va ouvrir ses portes ce soir à 21h après l'allocution du président, afin que les Français expriment leurs condoléances. Un recueil sera mis à disposition dans le vestibule d'honneur du palais jusqu'à dimanche inclus. Mmh. Et le jour de deuil national sera décrété lundi prochain, avec un service solennel qui sera célébré en l'église Saint-Sulpice à midi. D'habitude, c'est à Notre-Dame qu'ont lieu les célébrations pour les présidents décédés. C'est à Saint-Sulpice, évidemment, vu les circonstances, qu'aura lieu cet hommage.
Donc lundi, journée de deuil national et cérémonie à Saint-Sulpice, également lundi à midi. Yaël, merci beaucoup. On en parlait avec Karine Bécard il y a un instant, la cohabitation dans la foulée de la dissolution, 5 ans, 97-2002, avec Lionel Jospin à Matignon. Période pas simple, dit l'ancien Premier ministre, et en même temps une chance.
Nous avons dirigé le pays ensemble. J'ai eu le privilège de gouverner la France sous sa présidence. Alors c'était une période politiquement complexe parce que c'était la cohabitation et j'ai sûrement conduit en politique intérieure une action différente de celle qui aurait été la sienne. Mais ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est que en politique étrangère, nous avons veillé tous deux à ce que la France parle constamment d'une seule voix et soit respectée sur la scène internationale.
Nous perdons un homme qui a compté dans la vie du pays et dans la mienne, dit le Premier ministre Édouard Philippe, très ému et un peu nostalgique dans Paris-Normandie. Une simple photo de l'ancien président barré d'un bandeau noir sur les comptes, sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron. À droite, c'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui, dit Nicolas Sarkozy, son fils politique, qui lui succède en 2007 à l'Élysée. Pour le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, Jacques Chirac fait désormais partie de l'histoire de France. Il a incarné l'âme de la France à travers ses territoires et ses valeurs. Pour celui du Sénat, Gérard Larcher, l'Assemblée et le Sénat qui ont observé une minute de silence aujourd'hui. François Hollande utilise le mot de combattant, Bernard Tapie décrit un tueur politique, François Fillon un lion et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, un homme chaleureux, tendez l'oreille, il est au téléphone depuis la Chine.
J'avais construit pendant mes 3 ans à Matignon une relation de proximité avec lui qui était faite de respect, de confiance et aussi d'affection. Le meilleur moment de ma semaine de Premier ministre, avec toutes les pressions et les tensions, c'était le mercredi matin quand je me retrouvais dans son bureau avec lui et qu'il m'aidait plus qu'autre chose. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné, auquel je dois beaucoup de choses, et ça pour toujours. Donc c'est ça aujourd'hui qui me marque.
Immense tristesse pour le préféré, Alain Juppé. Marine Le Pen se souviendra de son refus de la guerre en Irak, on en a parlé. Nicolas Hulot estime qu'il avait un début de conscience environnementale, notamment bien sûr avec son discours de Johannesburg en 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Au-delà de l'homme politique, il y avait un homme d'un profond humanisme. C'est un homme qui aime les autres. Et quoi qu'on pense de la politique, c'était un grand bonhomme. Probablement que j'ai participé à un début de conversion, à une prise de conscience. Il avait un amour absolument incroyable pour les peuples premiers. Je lui faisais part de l'état du monde. À chaque fois que je rentrais, je l'alertais. Il m'écoutait religieusement. Puis il y a eu le sommet de Johannesburg et sa phrase a fait le tour du monde. Je ne dis pas qu'il avait achevé sa conversion écologique, mais quelque part, il l'a initié et il a interpellé le monde. Donc, replacé dans le contexte de l'époque, pour un homme dont le positionnement politique n'était pas spontanément tourné vers ces sujets-là, je pense que quelque part, il a participé au début de la prise de conscience.
Nicolas Hulot, ce midi avec Bruno Duvic sur Inter, le jour où le Parlement adopte définitivement le projet de loi énergie-climat qui prévoit la neutralité carbone de la France d'ici 2050. Autre grand chantier à l'actif de Jacques Chirac, la lutte contre le cancer. Il a été le premier à en faire une priorité présidentielle, comme le rappelle le professeur David Kayat.
À partir de l'an 2000, j'ai réussi à travailler avec le président Jacques Chirac pour mettre en place un plan national de lutte contre le cancer, qui intégrait à la fois des dimensions de prévention, de soins, d'accès aux soins, de financement de la recherche, un plan extrêmement ambitieux. Et je dois dire que j'ai vu en face de moi un président de la République très concerné par la souffrance des malades, très concerné par les inégalités d'accès aux soins.
Et la mise en place du plan cancer, puis de l'Institut national du cancer, ça a vraiment donné une impulsion dans la lutte contre cette maladie.
Ah bah écoutez, la France, qui avait largement perdu du terrain au cours des années 90, a retrouvé sa place dans les 3-4 premières nations dans le monde en matière de qualité des soins. De dernières études montrent que la survie des malades en France traités pour un cancer a augmenté de l'ordre de 5 à 6% en global, avec des pointes à 10-12% dans certains cancers. Le président voulait qu'on replace la France dans la dignité du respect des malades jusque dans la fin de vie, qui n'avait jamais été fait. Hein. C'est extrêmement novateur en matière politique aussi. Hein.
Le cancérologue David Kayat avec Daniel Messager. Pour le reste, le premier mandat du président de la fracture sociale est parsemé de grèves, de manifestations contre les réformes Juppé, notamment sur les retraites.
Et puis, Sébastien, et puis il y a le côté obscur de l'animal politique Chirac.
Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir.
Premier président condamné en 2011, et pas seulement.
Oui, et ça a été long, très long, pour que se tienne le procès de Jacques Chirac, au terme de 15 ans de procédure, du fait notamment de l'immunité présidentielle. En 2011, l'ex-chef de l'État est malade, sa mémoire est défaillante. Les audiences au tribunal correctionnel de Paris se tiennent sans lui. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir été, en tant que maire de Paris, l'initiateur, l'auteur principal et le bénéficiaire d'un système d'emploi fictif à la mairie de Paris, des employés qui travaillaient en fait pour le RPR. Jacques Chirac ne fait pas appel, expliquant dans un communiqué ne plus avoir toutes les forces nécessaires pour mener par lui-même le combat pour la vérité.
Avant. Aujourd'hui, on rapporte une histoire.
Non. Abracadabra. Non. On va pas écouter tout de suite Jacques Chirac, on va l'écouter dans un instant. Avant ce procès, Corinne, Jacques Chirac avait échappé à plusieurs affaires, les voici.
Oui, dans les années 90, son nom apparaît dans plusieurs enquêtes, les marchés publics des lycées d'Île-de-France, les frais de bouche du couple Chirac à la ville de Paris, sans oublier l'affaire des HLM de Paris, avec la publication de la fameuse cassette mairie du nom de l'ancien collecteur de fonds du RPR. Il accuse Jacques Chirac d'avoir assisté à la remise de 5 millions d'euros en liquide, de francs pardon, en liquide.
C'était franc à l'époque,
quoi. Et voilà ce que répond le chef de l'État en septembre 2000.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Alors, je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongères.
Alors, il y a bien eu un procès des HLM de Paris en 2006, mais sans Jacques Chirac. On se souvient enfin de l'affaire des billets d'avion payés en liquide, 3 millions de francs, possiblement issus de commissions occultes. Le président, interrogé le 14 juillet 2001, ne se démonte pas.
Donc, jamais. Pour vous, les sommes se dégonflent?
C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit par, si vous me permettez cette expression, par définition.
Et dans cette affaire, comme dans d'autres, la justice a finalement renoncé à poursuivre le chef de l'État.
Autre échec de Jacques Chirac. Merci Corinne Audouin. Pendant son second mandat, on est en mai 2005. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
C'est le non au référendum sur la Constitution européenne.
Oui, une sacrée claque pour Jacques Chirac, européen de raison plus que de passion. Lui-même n'a pas toujours dit oui à l'Europe, loin s'en faut.
J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine.
Soyons nets, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe mollusque où la France serait engluée comme dans un marécage, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.
Jamais. 6 décembre 78, depuis l'hôpital Cochin où il se remet d'un accident de voiture, Jacques Chirac lance une violente diatribe contre le parti de l'étranger. Comprenez l'UDF de son concurrent de l'époque, Giscard d'Estaing, accusé de défendre une Europe supranationale contre les intérêts de la France. Discours conforme aux convictions gaullistes de Jacques Chirac et à ses ambitions électorales. Mais voilà, l'année suivante, il finit quatrième aux élections européennes. Pour lui, la conquête du pouvoir passera désormais par l'Europe. 1992, contre son propre parti, il soutient le traité de Maastricht, puis depuis l'Élysée suit avec constance une ligne pro-européenne jusqu'à ce référendum fatidique de 2005, cuisant échec, mais qui ne résume pas Chirac l'Européen, celui qui défendait la voie de la France, y compris à sa façon truculente. Février 88, sommet européen, il s'emporte contre son homologue britannique Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'elle veut de plus, cette ménagère? Mais couille sur un plateau, le micro est resté ouvert et la petite phrase passée à la postérité.
Merci Louise Baudet de nous avoir rappelé ses souvenirs. Le grand journal américain, le Washington Post, écrit en titre la mort du flamboyant président français opposé à l'invasion américaine de l'Irak. Angela Merkel à Berlin se dit très attristée, salue un formidable partenaire et ami, comme le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ici au micro d'Angélique Bouin.
Je veux d'abord rendre hommage à l'homme qu'il fut, chaleureux, naturellement et spontanément orienté vers les autres. Il y avait dans cette chaleur humaine de Chirac aucun artifice. Il était comme ça. Je l'ai connu de loin lorsqu'il était un jeune loup de la politique française. Et plus tard, je l'ai connu comme géant de la Ve République. Il parlait de la France et agissait pour la France avec énormément d'élégance. Et de l'Europe, qu'il ne portait pas dans le ventre, mais que sur le tard, il portait dans le cœur. Il parlait lors des réunions internationales avec une conviction qui impressionnait et les Européens et les non-Européens, surtout les non-Européens.
À Moscou, Vladimir Poutine rend hommage à un dirigeant sage et visionnaire, un des plus grands hommes que la France ait connu, pour le Premier ministre libanais Saad Hariri, dont la famille était très proche de Jacques Chirac. Et puis, ce qui reste de Chirac aussi pour nous tous, forcément après 40 ans de vie politique, c'est ça, c'est la télé, ce sont les marionnettes.
Écoutez, toi ta gueule, t'as même pas été fichu de faire libérer Bokassa. Bon, alors j'espère que cette fois t'as compris, les présidentielles in the bab et les municipales craquent dans l'oignon, mon colon.
Dans ma vie, j'en ai tâté du cul de vache d'Arvor. Ah oui, oui. J'en ai tellement côtoyé des meumeux que si ça se trouve, j'ai eu des enfants cachés avec.
Cette voix, justement, qui était inspirée de la sienne, hein, on exagérait un peu, mais il fallait surtout s'inspirer de cette rondeur qu'il avait, qui charmait les Français.
Compagnons, mangez des pommes!
J'étais content du fait qu'il nous ait laissé faire ce qu'on voulait pendant des années. Et il m'a répondu, il paraît que vous m'émettez. Il faisait comme si de rien n'était, alors que bien sûr, les guignols, ils le faisaient rire beaucoup.
Bon, alors j'ouvre un nouveau programme, ultra-libéral, je vais dans Madeleine.
On quitte une période qui a été faste quand même pour la rigolade politique et qui était un petit peu symbolisée par lui.
Une période faste pour la rigolade politique. Vous avez reconnu Chirac au bébé de chaud, puis au guignol de l'info. Et celui qui l'imitait à merveille sur Canal Plus, Yves Lecoq. Tout cela compilé par Alexandra Acoun, qu'on remercie. Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui lit un livre de poésie derrière un playboy, disait Françoise Giroud, pour résumer un être bien plus délicat que le côté rustique qu'il renvoyait. Amoureux de l'Asie, surtout du Japon et du sumo, expert en art premier, il laisse le musée du Quai Branly à Paris, musée qui porte son nom, où est allé Bastien Munch.
Premier de primordial selon les époques.
La voix de Jacques Chirac résonne encore dans l'exposition qui retrace les 20 années d'acquisition du musée du Quai Branly. La plupart des visiteurs ont appris la mort de l'ancien président en déambulant dans l'expo. C'est le cas d'Isabelle, les yeux rougis par l'émotion.
Je m'attendais un petit peu à ce que cet homme décède, mais aujourd'hui je suis au musée Branly et c'est grâce à lui, donc ça m'émeut particulièrement.
Même émotion pour Jacques, qui habite en région parisienne. C'est la toute première fois qu'il vient au musée du Quai Branly.
Par hasard, le guide à l'entrée du musée m'a appris que le président Chirac était décédé. J'avoue que ça m'a profondément troublé. Je suis là, le jour de son décès, dans son musée.
Geneviève vient tout juste d'apprendre la mort de l'ancien président. Selon elle, Jacques Chirac a ouvert les yeux aux Français sur les arts non européens.
Il a eu à cœur de nous faire passer des choses qu'on n'aurait peut-être pas remarquées. Tout ce qu'il a porté et qu'il a récupéré dans les pays, ce n'était pas forcément considéré par nous comme des œuvres d'art. Et là, il nous fait découvrir des choses magnifiques.
Tous considèrent que visiter le Quai Branly aujourd'hui, c'est un peu rendre hommage à l'homme de culture qu'était Jacques Chirac.
Paris est en deuil, dit la maire Anne Hidalgo, qui annonce drapeaux en berne sur les bâtiments municipaux et registres de condoléances à l'hôtel de ville et dans toutes les mairies d'arrondissement, tout comme donc à l'Élysée ce soir des registres de condoléances à partir de 21h et jusqu'à dimanche inclus. Une journée de deuil national également en hommage à Jacques Chirac et lundi, ainsi qu'une messe à midi, lundi toujours, dans l'église Saint-Sulpice à Paris. La tour Eiffel sera éteinte à partir de 21h ce soir. Et donc Emmanuel Macron reporte son premier débat sur les retraites pour un hommage à Jacques Chirac. Ce sera tout à l'heure à 20h à la télévision, à suivre évidemment sur Inter avec vous Fabienne. Sur le site d'Inter aussi, Chirac en photo, Chirac en musique notamment. Demain, invité Dominique de Villepin à 7h50, Alain Juppé à 8h20. Je crois que j'ai tout dit sur ce sujet.
Absolument, et nous on se retrouvera évidemment donc dans un instant pour le téléphone sonne. Juste avant de se quitter, Sébastien, un détour quand même par Rouen bien sûr.
Par Rouen, évidemment. Pour faire le point sur l'incendie qui s'est déclenché la nuit dernière dans l'usine Lubrizol, on est à 3 km du centre-ville. Incendie maîtrisé mais pas encore circonscrit. Bonsoir Mathilde Deimy.
Bonsoir Sébastien.
D'ailleurs, il y a toujours un panache de fumée de plusieurs kilomètres de haut, mais les nouvelles ce soir sont plus rassurantes, c'est ça ?
Oui, le panache est passé dans l'après-midi. Le périmètre a été levé autour de l'usine et le préfet vient d'annoncer que les très épaisses fumées noires qui ont dégagé ce panache de 22 km de long sur 6 de large sont certes malsaines, ces fumées à respirer, occasionnant des irritations mais pas toxiques. Les mesures ont relevé une faible quantité d'oxyde d'azote mais pas d'hydrogène sulfuré qui était la grosse crainte des autorités. Il faut dire que dès le début de l'incendie, Lubrizol a écarté les cuves de phosphore, soulageant le travail très complexe des pompiers qui ont lutté 12 heures durant contre des nappes enflammées d'hydrocarbures avec de la mousse. Désormais, le feu est maîtrisé. Il reste des foyers résiduels sous surveillance. Pas de quoi rassurer Augusto qui habite dans le périmètre de sécurité et qui a mis un petit masque.
Je suis un peu asthmatique et puis je fais attention quand même. Depuis ce matin, j'ai mal à la gorge, ça picote. J'ai mal à parler, c'est la fumée et tout ça. Avec la peur. Parce qu'on ne sait jamais, on aurait pu sauter. Je commence à en avoir marre parce que ça, en 2013, il y a eu des très gros problèmes. Là, maintenant, il n'est pas en feu, ça fait peur.
Augusto a dû accueillir en pleine nuit sa famille qui habite à 100 mètres de l'usine et qui a fui après les premières explosions. Son petit-fils n'a pas pu aller à l'école. Tous les établissements scolaires des 12 communes autour de l'usine resteront fermés demain par précaution et pour nettoyage. Dans les prochaines heures, il devrait y avoir encore des odeurs de gaz émanant sur toute l'agglomération.
Mathilde Deimy pour ces dernières informations depuis Rouen. Merci. Avec François Rivalan, j'ajoute qu'une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.
Sébastien Paour pour le journal. Merci beaucoup.